Nous avons tous entendu l'adage « le client est roi ». ROI, trois lettres qui représentent le Graal de toute entreprise. Alors faisons entrer dans l'arène les troubadours, jongleurs et ménestrels des plus belles marques B2B. Ils sont Customer Experience, Sales et Marketing et vous révèlent les secrets d'une expérience client sublimée et créatrice de valeur. Je suis Léonie Williamson, fondatrice de Jeudi Merci, et je vous souhaite la bienvenue dans Les Fous du Roi, le podcast qui vous aidera à faire vivre à vos clients la plus belle des expériences. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Fous du Roi. Vous le savez, notre objectif dans ce podcast, c'est de parler d'expérience client sous toutes ses coutures. On l'a déjà abordé du point de vue de l'équipe Customer Experience, de l'équipe Marketing. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Samuel Ogy, qui est VP Operations chez Akeneo et notamment en charge de l'équipe CSM. Samuel, bonjour.
Bonjour, Mimi.
Est-ce que tu peux nous présenter Akeneo et ton rôle en quelques minutes?
Donc Akeneo, c'est une société qui a été créée en 2013, qui est éditeur de solutions PIM. Donc, PIM, c'est Product Information Management. Et plus largement, des solutions de Product Experience Management, plus exactement. Le but, c'est de pouvoir caractériser les produits qu'on voit tous les jours. Donc ça peut être des voitures, ça peut être des télés, des vêtements, choses comme ça, de façon à ce que... ce que ce soit le plus pertinent possible pour les clients finaux.
Et est-ce que tu peux nous donner un exemple d'entreprise qui utilise Akeneo?
On a tout type d'entreprise, aussi bien des petites que des grandes, de tout secteur. Donc des sociétés, ça peut être Renault, ça peut être Staples, ou ça peut être Leclerc, enfin voilà, ce genre de LVMH, enfin ce genre de sociétés-là.
D'accord. Et donc, quand on va sur le site, par exemple, de vente en ligne de Leclerc, le catalogue produit est géré par Akeneo, c'est ça?
Exactement, oui, tout à fait. En fait, on aide les équipes, de mes clients, à définir de façon structurée le produit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, on avait l'habitude de voir sur les sites web un bloc de texte décrivant le produit. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est déjà pas mal, pour être franc. Il y a des sociétés qui n'avaient même pas ça. Nous, ça ne suffit pas en fait. On pense que ça ne permet pas aux clients finaux de comprendre ce qu'ils achètent. Et donc, ça génère beaucoup de retours produits. Pour un exemple facile à comprendre, si on achète une télé et qui est marqué HDMI, oui, non, ça ne permet pas de savoir combien il y a de prises HDMI.
Okay.
Et donc, quand on reçoit la télé, on voit qu'il n'y en a peut-être qu'une ou deux. Et du coup, ça ne suffit pas et on renvoie la télé et ça génère des retours produits pour nos clients. Ce n'est pas une bonne idée.
Qui sont très chers.
Qui sont très chers. Et donc c'est pas une bonne chose. On aide nos clients mieux à définir qu'il y a 3-4 prises ou 2 prises HDMI pour que leurs clients à eux fassent l'achat en connaissance de cause.
Ok, merci pour cette description hyper claire. Et du coup, toi, chez Akeneo, quel est ton rôle?
Moi, je suis directeur des opérations chez Akeneo. Je m'occupe de la plupart des choses après-vente et aussi de l'IT interne, donc tout ce qui est projet transverse à la société du point de vue IT.
Oui, donc tu as un rôle très large et il me semble que chez Akeneo, vous êtes 250 employés à travers le monde.
Exactement, renseigné.
Ok, et alors aujourd'hui, je pense qu'on va se concentrer surtout sur ton rôle dans l'équipe Customer Success. On sait qu'en général, dans les entreprises B2B, le rôle de l'équipe Customer Success peut varier énormément d'une boîte à l'autre. Chez Akeneo, les Customer Success sont en charge de quoi?
Alors, effectivement, ça varie beaucoup d'une société à l'autre. Chez Akeneo, en fait, les Customer Success sont en charge des clients de la signature jusqu'à la fin. On espère qu'elle n'arrive jamais. Et ils sont là pour accompagner nos clients, en fait, sur les meilleures façons possibles d'utiliser nos solutions dans leur contexte, en fait, pour leur cas. Donc, c'est vraiment un rôle d'advisor pour nos clients. Et d'un point de vue très concret, très opérationnel, globalement, ils vont prendre contact avec les clients dès la signature pour identifier quels sont les enjeux auxquels veulent répondre ces clients-là. Et ils vont les accompagner, gérer toute cette partie-là, ce qu'on appelle l'onboarding, globalement. Puis, il y a une grosse phase de renouvellement également, qui est très important pour nous, forcément. On a un modèle de souscription. Et donc, de la même façon, ils vont être là pour les accompagner sur cette phase-là. Et en fait, c'est très critique parce que si on les accompagne mal en amont, si on fait mal le rôle d'advisor en amont, globalement, les clients sont moins, pour l'avoir vécu de l'autre côté, sont moins enthousiastes à renouveler dans de bonnes conditions, en fait. Et je pense que plus ils utilisent la solution de façon efficace et efficiente pour eux, plus ils perçoivent l'intérêt et donc plus ils renouvellent les aimants.
D'accord. Et donc, votre équipe qui a ce rôle d'accompagnement, comment est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de savoir si cette équipe est performante? Comment vous évaluez leur performance?
On a des manières assez standards, globalement, ce qu'on appelle le Net Revenue Churn, Net Revenue Retention aussi. Donc, c'est un très bon indicateur, le taux de churn, concrètement. Le taux de satisfaction, on a des NPS côté client. Alors, ça ne permet pas de mesurer l'efficacité de l'équipe CSM. C'est plutôt une mesure du ressenti client vis-à-vis de la société entière, vis-à-vis d'acquérir entièrement. Mais c'est des bons indicateurs également. Et voilà, globalement, c'est à peu près ce qui me permet de mesurer. Comment les clients nous perçoivent.
Et quand on a présenté cet épisode, tu m'as dit quelque chose qui m'a un peu frappé. C'est que jusqu'à 120 clients, vous n'aviez qu'un seul CSM. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Bien sûr. Alors, c'est à la fois une bonne chose et une moins bonne chose. Chez Akeno, en fait, la bonne chose, c'est que chez Akeno, effectivement, on a une culture client qui est assez ancrée, qui était là dès le départ. Et c'est ce qui m'a aussi fait rejoindre Akeno. C'est cette envie, en fait, d'accompagner nos clients. Et donc, c'était ancré sur tous nos services, aussi bien les sales que le produit, que les professional services, que même la finance, en fait, était là pour accompagner nos clients. Et du coup, on n'avait pas perçu ce besoin d'avoir une équipe CSM dédiée à cet accompagnement, puisque toutes nos équipes étaient là pour ça, y compris notre PDG, Frédéric de Montbert. Donc, tout se passait bien. Et forcément, on a une croissance qui est assez forte chez Akeno depuis le début. Et du coup, avec cette croissance, on a dû un peu structurer les équipes. Et donc, on a commencé à percevoir le fait d'avoir besoin de mettre en place cette équipe CSM. Et effectivement, au début, on a mis en place une CSM pour être exact. Et on pensait que ça allait suffire. Puisque le but, c'était plus de structurer une démarche que d'avoir une équipe dédiée à cela. Et en fait, pareil, c'était le moins bon côté de la chose, c'est que finalement, ça suffit pas du tout. On peut pas accompagner nos clients avec une seule personne.
Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une petite règle, une petite idée de combien de CSM il faut pour gérer un certain nombre de clients?
Je peux te répondre pour Akeno. C'est forcément une réponse qui n'est pas bonne pour les autres sociétés. Je pense que ça dépend vraiment d'une société à l'autre, du type de client, de l'accompagnement qu'on demande, enfin, du rôle qu'on donne au CSM. Chez Akeno, en fait, on est à 1 pour 30-40 clients.
D'accord.
Quel que soit le pays, on a des CSM qui sont répartis à travers le monde, dans tous nos bureaux. Et effectivement, on a une règle qui est à peu près 1 pour 30-40 clients.
Donc, merci de nous avoir présenté Akeno dans ses moindres détails. On va passer à l'opération ou la pratique que tu as décidé de nous partager aujourd'hui. Et donc, l'idée dans les Fous du Roi, c'est d'aller vraiment au cœur des choses, de comprendre de façon très concrète comment tu as mis en place une pratique orientée client chez Akeno, comment vous la pilotez au quotidien. Et tu as décidé de nous parler des clubs utilisateurs.
Oui, exactement. Les clubs utilisateurs, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 2 ans environ. On avait déjà des événements dédiés à nos clients, mais on a voulu faire quelque chose de très spécifique, très restreint pour améliorer les échanges. Et on avait mis en place donc ces clubs utilisateurs. On a mis en place ce type d'événement partout dans le monde, de façon un peu spécifique à chaque pays, parce que c'est pas les mêmes pratiques globalement. Donc on a laissé la liberté à chacun de nos pays de faire comme il le pensait au mieux. Et le but, c'est que de réunir des clients à un endroit, sur un événement particulier, encore une fois, de façon un peu cloisonnée, et de faire en sorte que de leur partager beaucoup d'informations déjà, aussi bien sur des pratiques que sur notre vision de ce que c'est que le PXM, le Product Experience Management, et surtout de leur permettre d'échanger ensemble sur comment ils mettent en place cette pratique qui est le PXM dans leur société. Et c'est quelque chose que nous on aime bien. Ça nous permet d'échanger et aussi de percevoir beaucoup de ce que font nos clients avec nos solutions, de ce que eux veulent mettre en place, attendent de nos solutions. Donc beaucoup de feedback aussi pour nous et beaucoup d'interactions entre eux, ce qui est à chaque fois un plaisir en fait d'organiser ça.
Si on se concentre sur ce que vous faites en France, comment est-ce que vous organisez ces clubs? À quelle fréquence? Comment vous lancez les invitations? Comment se déroule le club? Est-ce que tu peux nous dire vraiment de façon hyper concrète ce qui se passe quand on est client à Kenéo et qu'on est invité à un tel événement?
Alors, comment on organise? Globalement, on organise ça localement, encore une fois. Enfin, on prend un endroit, on loue une salle ou comme ça. Donc c'est physique, contrairement à d'autres pays où aux États-Unis on fait ça plutôt en ligne.
D'accord.
Pour des questions évidentes de distance. En France, vraiment, on fait ça, on loue une salle. Donc comment ça se passe pour un client? Globalement, il reçoit une invitation, il est contacté par son CSM. S'il est intéressé, il reçoit une invitation, on va lui envoyer tous les détails. Le programme, et puis sur le jour J, c'est plutôt très informel. On est chez Kenéo, on aime bien les choses naturelles, donc ça va être c'est organisé, bien sûr, il y a un programme, encore une fois, mais le but c'est vraiment de privilégier le côté informel, le côté échange avec les clients, donc globalement, et le côté bon enfant, bonne ambiance, donc c'est presque un endroit convivial, un moment convivial qu'on essaie de partager avec nos clients.
Et vous essayez d'être combien à ces événements?
Globalement, on est entre 15 et 30 en France.
D'accord.
Sur ces événements. On a déjà fait plus petit, encore plus restreint, mais le but, c'est vraiment 15-30 personnes. On essaie de réunir différents types de personnes chez nos clients, donc ça va du project manager au directeur marketing ou directeur e-commerce ou comme ça. Et par contre, derrière, on essaie de les réunir pour qu'ils puissent échanger entre pairs. Et encore une fois, récupérer le plus de bonnes pratiques qu'ont mis en place leurs pairs.
D'accord.
Ou d'échanger sur les problématiques qu'ils ont en commun. Parce que globalement, il faut être franc, les problématiques sont les mêmes, sont sensiblement les mêmes d'une société à l'autre.
Et donc, pour favoriser ces échanges entre pairs, vous essayez de sélectionner 15-30 personnes qui sont dans des secteurs d'activité similaires, des entreprises similaires. Il y a une vraie sélection en amont?
C'est ça. En fait, on a une sélection sur un intérêt. Typiquement, si on prend comment faire partager l'expérience produit sur les réseaux sociaux, on va essayer de rassembler des clients qui ont cette problématique-là. C'est peut-être trop imagé, c'est peut-être pas forcément un bon exemple, mais typiquement dans le B2B industriel, le partage de l'expérience produit sur les réseaux sociaux, c'est pas une problématique qu'ils ont en premier lieu, on va dire. Alors que dans la fashion, ça va être une problématique évidente. Donc si on fait un événement orienté sur cette problématique-là, on va plutôt effectivement rassembler des clients autour de la fashion.
Ok. Est-ce que sur ces événements, donc vous poussez vos clients à interagir entre eux? On a déjà eu certaines entreprises qui nous ont dit avoir un peu peur d'avoir cette démarche, avoir un peu peur que leurs clients parlent d'eux entre eux. Vous, comment vous voyez ça?
Alors, déjà, je trouve que c'est une bonne réflexion. Je trouve que quand on a cette peur-là, elle est légitime, mais elle est mal. Je la trouve mal située. C'est-à-dire que pour moi, si on a cette problématique-là, enfin cette peur-là, c'est qu'on a mal fait ou qu'on a mal travaillé sur l'amont. Nous, on pense que on essaie de pas avoir de cadavres dans les placards, on va dire ça comme ça, et donc on n'a pas peur que nos clients discutent entre eux. On est comme toute société, on n'est pas parfait et on n'a pas cette prétention-là. En revanche, on essaye vraiment de travailler avec nos clients pour éviter ce genre de cas-là et on n'a pas peur que ça arrive. si malheureusement on a des clients qui sont insatisfaits, ben, c'est de notre faute, c'est qu'on a mal fait quelque chose en amont et on assume. Mais on ne va pas les priver d'échanger entre autres pour ça. On espère travailler suffisamment bien pour que ça n'arrive pas en fait. Et je trouve que c'est ça qu'ils devraient faire.
Et pour ces événements, donc ces clubs utilisateurs, combien ça vous coûte de réunir 15-30 utilisateurs de façon régulière?
C'est très variable d'un événement à l'autre. Sur Paris, c'est le prix d'une salle. Pour être franc, on n'a pas d'organisateur. On ne prend pas un organisateur pour ce type d'événement. C'est vraiment, encore une fois, très cloisonné et bonne ambiance. Donc, on fait des courses au supermarché de façon classique. Donc, c'est vraiment, c'est pas un budget énorme. Encore une fois, le prix d'une salle, le prix des. Un peu de nourriture et un peu de boisson, et c'est tout. On n'a pas de budget extraordinaire pour ça.
C'est à la bonne franquette, on pourrait dire.
À la bonne franquette, exactement. Et c'est encore une fois ça que je pense qui plaît beaucoup également.
Et alors, j'ai une dernière question un peu spécifique, mais on m'a parlé d'un membre de votre équipe un peu particulier qui s'appelle Ziggy. Est-ce que Ziggy est invité au club utilisateur?
Oui, effectivement. Ziggy, c'est notre mascotte, on va dire ça comme ça. Donc, c'est une hydre à trois têtes. Trois têtes parce que nos solutions sont multicanales. Donc, on a schématisé ça autour de cette peluche. Et cette peluche, effectivement, on l'envoie à tous nos clients, déjà en cadeau de bienvenue dans la famille Akeneo, et on effectivement on l'invite avec. Un événement tel que celui-ci ne pourrait pas exister sans Ziggy. Ziggy est forcément invité. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup à tout le monde. Ça représente beaucoup Akeneo, je trouve. Et donc ouais, on a Ziggy à chaque événement.
Et la petite anecdote autour de Ziggy que je trouve très drôle, c'est que Ziggy a même un site web dédié qui explique aux clients qui ont reçu leur peluche comment s'occuper de Ziggy.
Comment élever leur Ziggy, effectivement. On a, je trouve que c'est vraiment caractéristique de ce qu'on essaie d'être et de faire chez Akeneo, et surtout d'être. On ne prend pas trop les choses au sérieux, on travaille beaucoup, on travaille dur pour faire plaisir et satisfaire nos clients, mais dans une ambiance qui est très friendly. Et donc, effectivement, on a un site qui est dédié à comment élever son Ziggy, à faire grandir son Ziggy. Et voilà. Mais il n'y a rien de très sérieux là-dedans.
On va maintenant passer de l'autre côté du miroir. Parce que donc tu es en charge de l'expérience que vivent les clients d'Akeneo, mais tu es aussi un client de nombreuses marques. Est-ce que toi, en tant que client, il y a une expérience qui t'a marqué parce que tu l'as trouvée vraiment, vraiment parfaite, sans couture?
Alors oui, j'ai effectivement aussi le rôle de... une sorte de DSI pour Akeneo, et donc je suis client de certaines solutions, et je trouve qu'il y a, si je devais en prendre une, dernièrement c'était l'utilisation d'une solution d'e-learning, où je trouve que l'accompagnement client qu'ils ont eu avec nous a été exemplaire. Si je dois la décrire, globalement, l'idée, c'est que on a eu des soucis, ça n'a pas été exempt d'obstacles. Par contre, à chaque fois, leur CSM a su nous accompagner, a su trouver les bons interlocuteurs chez eux pour résoudre les problématiques. Et en fait, cette expérience, elle était, je pense, je sais pas si je peux dire parfaite, mais en tout cas, pas très loin de ça. C'est-à-dire qu'ils ont Ils se sont intéressés à ce qu'on voulait faire avec leur solution, besoin de business. Ils nous ont accompagnés sur le chemin pour atteindre nos objectifs. Quand on a eu des problèmes, encore une fois, ils ont su les résoudre, très réactifs à chaque fois. Et en fait, c'est ça que je trouve bien. Le zéro problème, je n'y crois pas. Enfin, c'est génial, mais ça semble difficile à atteindre, voire impossible. Par contre, notre rôle en tant que CSM, c'est de pouvoir aplanir les murs, les obstacles, pour faire en sorte que nos clients atteignent leurs objectifs le plus vite possible. Je trouve qu'avec cette solution, ça a été le cas.
En fait, le produit avait des défauts, mais l'humain derrière était tellement présent, tellement bien organisé que l'expérience globale a été enrichissante pour toi.
Très satisfaisante, ouais. Et pour moi, un projet, qu'il soit informatique ou autre, hein, c'est avant tout une aventure humaine. Et je trouve que quand on a cette relation avec nos clients, en l'occurrence quand ils ont eu cette relation avec nous, et pareil pour nous, hein, globalement, les choses se passent beaucoup plus facilement, en fait. Quelle qu'elle soit. S'il n'y a pas de problème, bah, du coup, on s'amuse un peu plus. S'il y a des problèmes, les problèmes passent beaucoup plus facilement si on est réactif, si on s'intéresse à ce que font nos clients, si on s'intéresse à quels sont les impacts de ce problème-là chez eux.
Et donc, de cette expérience, est-ce que tu en as tiré des choses à mettre en place chez Akeneo?
J'en tire que la satisfaction de confirmer que c'est la bonne intention. C'est ce qu'on a fait, qu'on a mis dès le départ, avant même les CSM, encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Nous, beaucoup, ben, tous les services, beaucoup de personnes sont impliquées sur la satisfaction des clients. On est vraiment pas cloisonné. C'est une grosse satisfaction pour moi d'ailleurs. À chaque fois que je fais une intervention interne, je le mentionne. Nos équipes sont vraiment, vraiment orientées clients. Et c'est un plaisir pour ça. Et donc je peux que confirmer au travers de cette expérience que c'est ce qui, selon moi, fait plaisir aux clients. En tant que client, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, c'est comme ça qu'on essaie de retranscrire vis-à-vis de nos propres clients.
Donc, quand tu dis que toutes les équipes sont orientées clients, il m'a semblé comprendre que même l'équipe produit, par exemple, avait énormément de contacts avec les clients. Comment est-ce que vous faites en sorte de créer un produit qui réponde réellement aux attentes de vos clients?
Alors, effectivement, on a la chance d'avoir les équipes. Ben, encore une fois, l'équipe produit aussi, très orientée client. Globalement, on a une vision de ce que c'est que de ce que doivent être nos solutions. Donc, on sait sur quoi on va avancer, de façon macro. Et on essaie d'identifier, de façon un peu plus micro, comment répondre beaucoup plus opérationnellement aux besoins de nos clients. Pour ça, on permet à nos clients de nous remonter, en fait, des besoins. On a un portail qui leur permet de faire ça. Et après, on fonctionne sur des votes de ce besoin-là. Donc, plus on a de clients qui votent pour un besoin en particulier, au travers, soit en direct via le portail, soit via leur CSM, donc qui remontent le besoin à leur CSM, qui vote en interne. Et les fonctionnalités les plus votées, les plus sollicitées, sont approfondies par l'équipe produit, qui va, et c'est super, qui va interviewer un échantillon de clients. Donc, il n'y a pas une feature chez nous qui est développée de façon isolée. Toutes les fonctionnalités sont étudiées avec nos clients pour être sûr de répondre au mieux à leurs besoins. C'est ce qui nous permet d'innover. C'est-à-dire qu'on va pas, quand on parle de collaboratif, c'est un sujet très à la mode, enfin, qui était très à la mode. Ben, nous, on ne le prend pas comme quelque chose d'établi. On va le retravailler avec nos clients. On va essayer de comprendre ce qu'ils veulent faire avec le collaboratif. Et pour donner un exemple, bah, typiquement, plutôt que d'avoir une fonctionnalité où on attribue des tâches, ce qui est un travail énorme, en fait, quand on attribue des tâches à chaque personne dans une société, on va faire en sorte que ces tâches, elles s'attribuent toutes seules. Ah, parce qu'on a compris, au travers de ces études-là, que c'était un travail très chronophage et que si on pouvait automatiser cette attribution de tâches, et ça serait beaucoup plus efficace pour eux. Et donc, nos équipes produits font ces interviews avec nos clients et puis ensuite travaillent, refont feedback à nos clients, les font bêta-tester des features. Et quand elles sont sèches, enfin, quand elles sont bien, bien développées, on les propose à tous nos clients. Et je trouve que c'est, encore une fois, très démonstratif de comment on perçoit le travail des clients au travers de la société. Cette orientation, ce focus qu'il y aura.
Et donc, en fait, en étant très orienté client, vos clients sont aussi beaucoup dans la collaboration et vous apportent des infos dont vous avez besoin pour être les meilleurs sur votre marché. Est-ce que c'est difficile de motiver ces clients à participer, à prendre du temps pour vous aider à développer votre produit?
Alors, peut-être bizarrement, mais pas du tout. Nos clients sont plutôt très preneurs de ça. On a des clients qui font un déplacement à Nantes uniquement pour participer à ce genre d'études. Donc, pour être franc, ils y ont un intérêt, parce qu'on va prendre en compte leurs besoins de façon beaucoup plus spécifique. On ne travaille pas pour un client, jamais. Quand on développe quelque chose, c'est parce que ça intéresse l'ensemble de notre base client. Par contre, pour eux, l'intérêt est de faire vraiment valoir leurs objectifs, la façon dont ils aimeraient qu'on développe la solution. Donc, ils y ont un intérêt. Encore une fois, la façon dont on le fait, de façon amicale et bonne ambiance, fait que c'est, j'espère pour eux, c'est pas un moment désagréable, on va dire. Donc, non, c'est aucunement difficile. Le seul travail que ça nous génère, côté CSM en l'occurrence, c'est plutôt de segmenter, de sélectionner les bons clients par rapport à telle ou telle feature. Donc, pour ce représentatif, c'est-à-dire que, au-delà des clients qui ont voté pour une fonctionnalité, on va faire un travail de segmentation un peu plus large pour avoir une représentation plus factuelle, plus représentative de notre base client par rapport à cette fonctionnalité-là.
Et tu nous parles beaucoup de segmentation. J'imagine que le fait d'avoir un CRM ou des outils vraiment à jour et bien organisés est crucial pour être capable de bien segmenter. Comment est-ce que vous vous assurez qu'à tout moment, vous êtes capable de savoir sélectionner les bons clients pour les solliciter sur des sujets donnés?
Alors, c'est j'ai pas une réponse parfaite. Ou en tout cas, elle est peut-être trop évidente pour être spécifique. C'est juste l'intérêt qu'on a pour nos clients. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que tu demandais sur la peur de mettre en contact des clients les uns avec les autres, c'est la même chose ici, c'est que si on fait bien notre travail en amont, si on s'intéresse à nos clients au niveau business, au niveau enjeu métier, au niveau ce qu'ils veulent faire dans le futur avec nos solutions, c'est pas un souci en fait, c'est juste le fait de s'astreindre à mettre à jour la solution, parce que globalement, si on fait bien notre travail en amont, on les connaît nos clients, donc c'est uniquement renseigner le CRM, bah, c'est bête et méchante. Le plus gros du travail, c'est vraiment de s'intéresser à nos clients, et ça, je pense qu'on le fait, chacun de nous, on fait bien, et donc il n'y a pas un travail phénoménal pour nous.
Et on va maintenant passer aux questions flash. Donc la règle est assez simple, Samuel, je te pose des questions parfois pertinente, parfois pas trop, et tu dois y répondre en 30 secondes maximum. Est-ce que tu es prêt?
Oui, c'est un bon enjeu.
Le client pas content, on lui dit quoi?
On essaie de comprendre pourquoi il n'est pas content et de résoudre ou de solutionner son problème.
C'est quoi l'outil magique que tu rêverais d'avoir dans ton équipe?
Un outil magique, celui qui nous permettrait d'avoir une bonne base d'informations et une bonne base de connaissances permettant de répondre plus facilement à nos clients, quel que soit le CSM qu'il vienne d'arriver ou qu'il ait 5-10 ans d'expérience avec l'ensemble de nos clients.
Alors, Akeneo, c'est une entreprise qui est basée à Nantes. On se pose une question, est-ce que Nantes, c'est en Bretagne ou pas?
Là, je vais me faire la moitié d'ennemis et la moitié d'amis. C'est un gros débat à Nantes. Moi, je dirais Bretagne.
Nantes et en Bretagne. Ouais, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi te contacteront. On peut te contacter sur LinkedIn.
Voilà, merci Léonie.
C'est quoi le pire défaut à avoir quand on fait un métier comme le tien?
De ne pas être capable de trouver des solutions. Encore une fois, l'expérience sans problème, je pense, n'existe pas. Et le focus solution, c'est, je pense, vital essentiel en tout cas dans mon métier.
Et je sors des questions flash, mais du coup, ce défaut-là, comment est-ce que tu le testes chez des candidats que tu peux interviewer pour rejoindre l'équipe CSM?
En fait, quand on recrute un candidat, on a des tests de mise en situation. Et il n'est pas évalué qu'avec des CSM. D'ailleurs, le candidat, il est évalué avec plusieurs métiers, sales, professional services et autres. Et donc, on essaie de valider le fait que le candidat s'intéresse aux besoins de nos clients, besoins aux métiers de nos clients, etc. Et donc, même sans connaître nos solutions, il doit être capable de répondre en fait à une problématique particulière. qu'à nos clients, en s'intéressant à ce qu'il fait et en essayant de trouver des solutions à ces problématiques-là.
Ouais, en étant curieux.
En étant curieux et encore une fois, en essayant de solutionner la problématique. Si je prends un exemple qui peut parler à beaucoup de gens, quelqu'un qui veut négocier ou qui n'est pas content d'une solution et qui veut la quitter ou négocier autour de ça, nous, on va plutôt essayer de travailler l'usage, comment on fait pour que ces utilisateurs adoptent le plus possible nos solutions et plutôt que d'essayer de convaincre le client que c'est la meilleure solution, que c'est on est les plus beaux, les plus. C'est pas ça qu'on essaie de faire. C'est vraiment de travailler l'usage, le besoin métier de nos clients.
Merci pour cette réponse hyper complète. Je repars sur les questions flash. En trois mots, comment est-ce que tu convaincs le meilleur CSM du monde à rejoindre ta boîte?
En trois mots. Culture de la société à Akineo. Le métier d'Akineo, très digital, nouvelles techno, tout ce qui est autour e-commerce et autres. Et la façon dont on travaille ensemble chez Akineo. Et ça, je veux juste détailler vite fait, c'est peu importe l'endroit, nos bureaux, là où est situé le CSM, Boston, Nantes, Londres et autres, en fait, on essaie de tous de se voir, de se connaître. On a des événements en commun, physiquement, sur place, et la culture, en fait, l'échange entre collègues, que ce soit des CSM ou avec le support, avec l'équipe produit, avec les sales, etc., est essentiel pour nous. C'est quelque chose qui est pareil, c'est ancré, c'est un coût chez nous, mais on juge que c'est absolument nécessaire pour travailler dans d'autres conditions et pouvoir échanger ensemble.
Et tu parles de collaboration, nous on entend souvent qu'il y a des petites guéguerres entre les équipes sales, marketing, CSM. Donc chez Akineo, tout le monde s'aime?
Oui, et j'ai la prétention de pouvoir le dire. Oui, je pense que c'est le cas. En fait, tu as raison, enfin, je m'entends aussi beaucoup. La guerre, notamment sales, CSM, est très présente dans d'autres sociétés. Chez Akineo, c'est pas le cas. On a des sales qui comprennent les enjeux qu'ont les CSM comprennent les enjeux des sales. On a une phase de handover, donc de transmission d'informations qui est très processée, etc. Et donc, on a des sales qui vraiment transmettent beaucoup d'informations, qui ne survendent pas la solution. Ça, c'est essentiel aussi. Je l'ai vécu auparavant et on a des concurrents qui le font. Nous, on essaie de ne pas tomber dans ce travers-là. Ça nous permet, et ça c'est une mesure, dont on parlait de mesure tout à l'heure, hein, ça nous permet d'avoir un taux de churn très très faible chez Akineo.
Ça veut dire quoi très faible? On veut des chiffres.
Ça veut dire moins de 3% de taux de churn chez Akineo, ce qui est, okay. Je pense, un peu exemplaire dans nos métiers, en SaaS. Et donc, c'est grâce à ce travail que font les CSM, avec les sales, avec le produit, avec tout le monde. Il n'y a pas de guillère chez Akineo, surtout pas.
Génial. J'ai une dernière question pour toi. Tu sais que chez Jeudi Merci, on aime beaucoup les cadeaux. Si on reste sur ce sujet d'expérience, c'est quoi le pire cadeau que tu aies reçu?
Alors, j'ai pas reçu de mauvais cadeaux. Parce que c'est des cadeaux, c'est une tension, voilà. Après, le pire que je puisse avoir, c'est un cadeau qui n'est pas du tout personnalisé, qui est très commun, qui n'a rien à voir avec mes centres d'intérêt. Donc, c'est le fait de percevoir que ce n'est pas un cadeau qui est fait pour moi, en fait. Mais ce n'est pas une mauvaise expérience en soi, c'est juste pas une expérience personnalisée qui me fait penser que je suis un client comme un autre, quoi.
Donc, vous l'aurez compris, pour faire une expérience qui plaît à Samuel, il faut avant tout mettre de l'humain et de la personnalisation au cœur des choses. Merci beaucoup, Samuel, pour ton intervention aujourd'hui. C'était vraiment hyper intéressant d'apprendre à mieux connaître Akineo, votre culture client et la façon dont vous vous assurez que l'humain est au cœur de tout.
Je t'en prie. C'était avec plaisir.
Et bien, encore merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fous du Roi.